the chosen one the boy may be. Nevertheless, grave danger I fear in his training.
Master Yoda, I gave Qui-Gon my word. I will train Anakin. Without the approval of the Council, if I must.
Qui-Gon's defiance I sense in you. Need that you do not. Agree with you, the Council does. Your apprentice, Skywalker, will be.
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Belbino et je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jonve. David, comment ça va?
Ça va tout aussi malade que toi!
Ouais, c'est super, tu sais. On a reparti, on a été absent pendant un bout de temps, tu sais. J'étais là, hey man, ça tombe tellement bien.
C'est la rentrée. Je sais pas quand vous allez écouter l'émission, chers internautes, amateurs et geeks, mais nous autres, on enregistre ça, on est le 3 septembre 2018. C'est la rentrée scolaire. On est aujourd'hui, c'était la fête du travail. Et puis, donc oui, c'est ça, c'est la rentrée scolaire. Nos enfants, enfin, les enfants à Sébastien sont à l'école depuis une semaine. La mienne a commencé une nouvelle garderie depuis une semaine. Donc, c'est notre première fin de semaine. Donc,
des nouvelles bactéries, c'est clair.
Je dirais que c'est comme le retour au travail.
Ah ouais.
On commence Vision X, on commence malade.
Ah, c'est débile, t'sais. Mais j'ai eu une conversation avec ma fille pour expliquer certains principes par rapport à l'école. T'sais, j'ai dit, tu sais, c'est une usine à microbes. Faut que tu tiennes compte, tu sais, faut que tu prennes pour acquis, en fait, que tout le monde a une hygiène déficiente. Ah, je te vois plus. Tout le monde a une hygiène déficiente, OK? Et, c'est pour ça que tu dois te laver les mains tout le temps. tu dois faire attention, tu dois pas les mettre dans ta bouche, tu dois faire ci, ça. Fait que, ouais, j'essaie de travailler là-dessus, là.
Tu me vois-tu?
Non.
Ah, ok.
Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Skype. Tout à coup, t'es disparu. Toi, tu me vois.
Je ne peux te répondre. Bref, on commence en grand.
Ah ouais, c'est super. Hein? On n'a pas fait d'épisode depuis quelques mois et Skype nous chie dans les mains, comme on dirait en bon français.
Classique. Mais aujourd'hui, on commence, donc on retourne au travail avec quand même du gros matériel.
Ah ouais, écoute, tu sais, en fait, quand on s'est parlé, là, puis on a décidé de des films du mois, là, je pense qu'on s'est mis la barre quand même haute, non, ça ben, dépend de quoi,
dépendamment
de quoi.
Il y a quand même des bonnes choses et des mauvaises choses à dire, je trouve, sur ce film. En tout cas, on va en parler. Là.
Ouais, on va aller direct dans la viande. David, présente-nous le film de la semaine.
Cette semaine, nous avons écouté Star Wars épisode 1, The Phantom Menace, de 1999. Le synopsis de ce film-là, en fait, est assez simple. Donc, un Sith Lord du nom de Jar Jar Binks réussit à mettre ses cartes d'une façon incroyable et passer comme le dernier des imbéciles alors qu'il tire les ficelles en arrière pour réussir à se mettre dans une position... Ah non, c'est pas ça, excuse-moi. Ah, non, c'est ça, Jar Jar. Ah non, j'étais un peu mélangé, excuse-moi. Mais en fait, bref, on peut recommencer, mais en parlant de Palpatine. Qui réussit donc à tirer les ficelles du gouvernement, le Conseil Jedi, tout ça, pour réussir à se mettre dans une position d'autorité au gouvernement. Et cette partie de carte de poker-là... Ah, tiens, moi aussi, je viens de te perdre. Cette partie de poker-là tourne autour, en fait, d'un désagrément entre la planète Naboo et la Trade Federation et sont pris dans cette guerre qui n'en est pas vraiment une. Nos personnages principaux, évidemment, vous les connaissez tous, J'ai pas vraiment besoin de faire un synopsis de ce film-là. Si vous n'avez jamais vu le Phantom Menace, ben allez, c'est rare que je le dise. Je vais juste le dire une fois. Allez le voir. Puis, parce que, évidemment, pour les geeks, c'est quand même un must.
Ah non, pendant que tu parlais, est-ce que j'essayais de voir si je pouvais remettre l'image. Je pense que c'est toi, ton bord, peut-être, faudrait que tu gosses.
C'est ça que j'essayais de faire, mais pas en faisant mon...
Ah ouais, c'est ça. Ben écoute, je vais me lancer tout de suite dans... Écoute, ça fait pas si longtemps que je l'avais écouté. Parce que avant que l'épisode 7 sorte, dans le fond, j'avais fait un marathon avec mon gars. On s'était tous tapés en peu de temps. T'es de retour. Bonjour. Et, fait que, ouais... J'avais trouvé ça long. Cette fois-ci, je dois te dire que je l'ai regardé d'un autre œil. Tu sais, d'un œil. La dernière fois, je l'avais regardé d'un œil de quelqu'un qui regarde un film. là, c'était de l'œil de quelqu'un qui regarde un film dans le but d'en faire une émission d'une heure là-dessus.
Moi, je te propose une façon d'aborder le sujet, Sébastien.
Ok.
On a décidé donc de la programmation du mois de septembre dans un barbecue qu'on a fait chez nous il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, on s'est dit, qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui travaille dans l'industrie du film.
Ouais.
Quand tu regardes ça, finalement, c'est surprenant qu'il y ait des films qui soient faits. Juste ça, parce qu'il y a tellement de monde qui ont tellement de mots à dire. Puis évidemment, c'est des gros, 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 gros sous. Donc, je pense, on s'en était parlé à ce moment-là, je pense que c'est important de ne pas juste bâcher sur un film pour le descendre, tu sais, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé très fort là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai dit un peu plus tôt qu'il y a des très bonnes choses à dire de ce film-là. Il y en a beaucoup de moins bonnes, mais il y en a quand même des bonnes.
Oui.
Moi, je vais essayer de les trouver.
OK. Bon, allons-y.
Je vais m'en ouvrir une, là. T'as peu.
Ah ouais. Perrier citron. Mais non, en fait, moi je bois une bière, mais il y a tellement peu d'alcool dedans que c'est quasiment un Perrier au citron. Mais tu vois, là où j'allais en venir aussi avec mon affaire des yeux que j'ai décidé d'utiliser pour Vision X. En tout cas, parenthèse, je m'empêcherai pas de bâcher des films à l'avenir, mais. Aujourd'hui, tu sais, allons chercher parce que.
Non, mais c'est ce que je trouve ça important quand même. Oui. Quelques bons points.
Oui, parce qu'en même temps, Star Wars épisode, les prequels ont été bâchés et rebâchés et re-rebâchés derrière là, un million de fois. Là. Je veux dire, ça. Si on s'assoit là puis on bâche Star Wars épisode Phantom Menace pendant une heure, je veux dire, on n'amène rien de nouveau. En le regardant de même, tu sais, j'ai pensé aussi à cette conversation-là qu'on avait eue. Et je dois avouer que c'est un film qui a, à la base, une tentative de... L'idée est bonne. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'idée est bonne, très mal exécutée.
Exactement.
Mais bonne.
Oui, oui. Parce que il y a des choses excellentes. Je veux dire, le film, quand il part, là, quand ça part, c'est cool. C'est vraiment hot. Les Jedi qui arrivent dans le cruiser de la Fédération, toute cette affaire-là, là, toute cette scène-là, là, jusqu'à temps qu'ils arrivent sur la planète puis qu'ils rencontrent Jar Jar. On en parlera plus tard de Jar Jar.
Tant qu'il n'y a pas Jar Jar Binks,
ouais.
C'est cool.
Tout ça, c'est super. C'est Star Wars, mais c'est en même temps nouveau. Parce qu'on n'avait jamais vu des Jedi, pour vrai.
Ben vois-tu, ça c'est un des points très intéressants que j'aimerais soulever. Moi, quand j'ai vu ce film-là, j'étais super jeune. Ben, je veux dire, j'avais 19 ans quand j'ai vu ce film-là, quand c'est sorti en 99. J'étais allé le voir genre 8 fois au cinéma. Je me rappelle que mon frère était tout petit, là, il y avait genre 6 mois, puis j'écoutais les previews. J'avais réussi à enregistrer un preview sur mon vidéocassette, sur mes VCR. Puis je réécoutais la bande-annonce en boucle, parce que je trouvais ça donc le fun. Un nouveau Star Wars, des nouveaux personnages et une nouvelle esthétique visuelle qui est extrêmement différente des épisodes 4, 5, 6. Puis, justement, quand le film commence, ça commence à 100 000 à l'heure.
Ouais.
Le problème, c'est ça, c'est que, comme tu dis, dans le scénario dans le grand schéma des choses, c'est très, très, très inégal.
Ouais.
Puis il y a des longueurs à un moment donné. Toute la première passe où est-ce qu'ils envoient Naboo, Jar Jar, la cité des Gungans, ça n'a pas rapport, cette affaire-là. Puis là, quand ils sauvent le blocage, tout ça, il faut qu'ils passent à travers. Ça, c'est cool. Il y a aussi tout le pod racing. Là. Ça, je trouve ça
poche. Ah non, mais là on s'entend pas là-dessus. Là. Moi, je trouve que la scène du pod race, là, c'est une des meilleures scènes du film.
Ah, je trouve tellement que ça n'a pas rapport. Là.
Moi, je trouve ça super. Moi, ça, c'est le genre d'affaire que j'aime dans Star Wars. J'aime ça savoir, outre genre les Jedi et les méchants et les gentils, l'éternel conflit entre le bien et le mal là, qu'on nous présente toujours dans tous les films. Ça fait partie pour moi le pod racing de l'univers du world building, excusez les anglicismes, qui enrichit l'univers de Star Wars. Ça fait partie de la raison pour laquelle Star Wars est bon. C'est pas, écoute, je vais dire de quoi là, gros là, mais ok, avant que je m'avance, je pense que je dois donner un disclaimer là. Je suis un très très grand fan de Star Wars, j'adore Star Wars. Mais je suis aussi... je pense qu'avec le temps, en faisant Vision X, on a eu à regarder les films d'un œil critique, hein, et de dire la vérité sur les films. Les films de Star Wars sont mauvais. À part l'épisode 5, ils sont tous mauvais. L'histoire est mauvaise, est ordinaire, est simple. Il n'y a rien là. Tout ce qui est bon n'est pas là. C'est l'univers autour. Et pour moi, c'est pour ça que j'aime... Le pod racing, ben ça fait partie de ça. Tu fais comme, ah, cool, tu sais. Il y a quelque chose d'intéressant. Et pour moi, c'est le seul moment où Anakin est hot des trois films et qu'il y a une raison. Tu sais, que tu fais, ah, ok. Je veux dire, toute la scène là, où il détruit le battleship, là, le droid control ship, là, ah, c'est gossant. Mais dans le pod racing, c'est correct parce qu'il fait déjà. Tu sais, c'est comme crédible, ça marche, c'est pas enfoncé. Fait que c'est pour ça que j'aime la scène. Et en plus, je trouve que visuellement, c'est vraiment, vraiment incroyable comme scène. Et musicalement,
ça, je suis d'accord
aussi,
avec toi. C'est très bien réalisé, toute la scène du pod racing. C'est juste que moi, je me demande tout le temps où c'est que ça mène, cette histoire-là. Où c'est, pourquoi? C'est quoi le but? Tu sais, je m'en fous qu'il gagne, qu'il perd. T'sais, ultimement, en fait, je m'en fais même pas parce que je sais qu'il va gagner. Parce que l'histoire, pour que l'histoire continue, puis on sait qu'elle continue avec les épisodes 4, 5, 6, en fait, même 2, 3, 4, 5, 6, on sait qu'il va gagner. Donc, j'ai pas peur, jamais, quand il y a l'espèce de petit morceau qui branle sur le bord de son pod, là, je sais que ça va être correct. T'sais, c'est bien réalisé, mais étant donné le grand scénario des trucs et que c'est un prequel, puis on sait c'est quoi le point d'arrivée, il n'y a pas assez de rebondissements pour réussir à me faire peur dans cette scène-là. Autrement dit, je suis 15 minutes en avant de mon écran à me dire « Ah, il va gagner. » Fait que pendant 15 minutes, j'attends que ça passe avant que l'histoire revienne.
Donc, est-ce que... Tu me fais penser à une chose en disant ça. OK. Est-ce que, d'abord, l'épisode 1, 2, 3 n'était pas destiné à échouer?
Oui,
parce que sont des prequels, parce que tu ne peux pas mettre tes personnages dans des... Tu sais, il aurait fallu qu'il y ait beaucoup moins de personnages connus, tu comprends? Il aurait pas fallu voir Obi-Wan, il aurait pas fallu voir Yoda, il aurait dû avoir juste Anakin, mais à la limite, c'est que tu peux jamais craindre pour lui. Parce que, donc, c'est ça, ce que tu dis, c'est que les prequels étaient dus, l'épisode 1 et 3 était, c'était sûr qu'il allait échouer, parce que c'était impossible que les héros vivent une histoire que tu te préoccupes pour eux, que tu t'en... C'est une histoire que tu t'en fous pas, là, comme c'est le cas, finalement, de ben, tu sais, particulièrement d'épisode 1 qu'on parle là, mais on peut parler des deux autres aussi.
Ben écoute, j'aimerais ça qu'on prenne deux petites secondes pour parler d'un vidéo qui existe sur... et voilà, je viens de le trouver. Sur les internets. C'est un gars, je vous invite à aller voir ça. C'est What If Star Wars Episode 1 Were Good? Et puis après ça, il a fait épisode 2, épisode 3. Il réécrit l'histoire en changeant quelques détails. juste des petits détails à gauche, à droite, et subitement, ça devient hallucinant.
C'est vraiment bon.
Star Wars Episode 1, 2 and 3 were good. La chaîne, c'est Belated Media, avec B-E-L-A-T-E-D-M-E-D-I-A. Allez voir ça, c'est vraiment hallucinant. Par contre, moi, j'aimerais avoir ton opinion sur un petit truc, Sébastien.
Oui?
Par rapport, justement, à l'écriture du scénario en général, au concept de l'histoire de Star Wars Episode 1. À mon sens, Star Wars Épisode 1 est beaucoup trop loin dans le passé. Toi, t'es George Lucas, là. T'écris un scénario, tu sais que ça va arriver à Épisode 4.
Ouais.
Pourquoi tu vas aussi loin en arrière? Pourquoi tu commences pas tout de suite avec un Anakin qui est déjà dans les ordres, qui est déjà de l'âge de Natalie Portman? Tu sais, parce qu'ils ont quand même 15 ans de différence dans l'épisode 1. Puis après ça, oups, c'est lui qui est plus vieux de 3 ans. tu sais, pourquoi partir si loin en arrière? Est-ce que tu as une vision, un questionnement, une idée sur cette
la première affaire que je te répondrais, c'est simplement parce que j'ai pas assez d'histoires à raconter, là. Que, genre, j'ai pas le choix de reculer tellement en arrière parce que il se passe pas assez de choses. Mm-hmm. C'est ça. Et c'est la réalité. Moi, en fait, je pense honnêtement, c'est ça la réalité. C'est que tu te ramasses dans une situation où l'histoire d'Anakin est pas si complexe que ça. Elle est pas si longue que ça. Elle aurait pu se raconter dans un film, tu sais. Mm-hmm. Je veux dire, l'étape de passer d'Anakin à Darth Vader peut se faire dans un film. C'est pas compliqué, là. Mais...
Ah, je suis tout à fait d'accord.
Fait que moi, je pense qu'en bout de ligne, il est parti de si loin pour se donner de l'espace, parce qu'il avait besoin d'histoire. Puis il fallait qu'il crée un... Il a décidé, ben, dans le fond, tu sais, le premier film, c'est le background... Le premier film, c'est pas le background d'Anakin, c'est le background de Obi-Wan, tu sais, qui est en train de te donner.
Mm-hmm.
Puis le tu sais, c'est comme une introduction à Palpatine, puis ça, c'est... C'est-tu quoi, à la limite, là, je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin...
Encore, ça aurait été, à mon sens, beaucoup plus intéressant s'il avait fait, mettons, trois histoires qui ne se suivent pas.
Ah oh, ouais. Tu sais, ça aurait pu être ce qui amène d'un à tu sais, mais dans une connexion beaucoup plus étendue, là, je veux dire.
Tu sais, les Hyperspace Wars, où je me rappelle plus comment ça s'appelle. Là, de côté,
là, t'es loin,
vraiment loin en arrière. Puis là, après ça, un épisode sur Darth Vader qui est créé. Puis après ça, un autre sur un épisode, mettons, tu fais Star Wars Rogue One, mais version avec des Jedi, mettons, un épisode 3, en tout cas. Là, on s'éloigne un peu de notre
sujet. En fait, c'est que l'épisode 1 aurait pu être carrément sur le début des Sith à deux Sith. Comment ça a commencé? Parce que l'origine de l'histoire, c'est ça. C'est le moment où les Sith décident qu'on en garde juste deux, puis on essaie de manipuler, puis d'aller par en dessous. Puis là, tu sais, la deuxième partie, ça peut être Palpatine qui manipule puis qui réussit à jouer dans le gouvernement, tu sais. Parce que même si on extrapole, les clones noirs, ils sont insensés, selon moi. Là. Ça n'a pas de rapport. En tout cas, là où ça mène l'épisode 1, c'est niaiseux, là.
Non, ça mène nulle part.
C'est niaiseux. Ça donne un épisode 2 qui est horrible parce que c'est une histoire conne. Ça n'a pas de sens, là. Ça a juste pas de sens. Et fait que c'est ça, il aurait pu jouer et tirer plus là-dessus, puis oui, on aurait eu une, tu sais, ça aurait été une genre d'anthologie de comment la situation qu'on a vue dans le 4-5-6 est arrivée. Mais 4-5-6, on avait la matière à trois histoires, parce qu'à la base, tu sais, la trame de son qui permet de lier le 4-5-6, c'est la rébellion.
Mm-hmm.
On a un élément unique, tu sais, même si c'est l'histoire de Luke Skywalker puis de son père, puis ça, la rébellion permet de connecter puis de tirer l'histoire comme ça. Là, c'est qu'il n'y a pas un fil conducteur pour étirer nécessairement l'histoire sur trois films.
Puis tu marques un point intéressant. La rébellion et les Skywalker ne sont pas liés dans les épisodes 1, 2, 3.
Non.
Ils essayent de nous en parler en nous le forçant dans la gorge dans l'épisode 3. Là, mais pour de vrai, il y aurait pu avoir une dissension éventuellement entre Padmé et Anakin au sujet de... Ben, il y a comme il effleure le sujet un peu plus tard dans les films, là, mais ça aurait pu être une cause de divorce. Ça aurait pu être une cause de perte, de rage, de colère. mais finalement, on n'en parle pas autant que ça. Ben, c'est sûr que dans l'épisode 1 non plus, on parle pas d'Empire, on n'est pas rendu là encore, mais...
Ouais, c'est ouais. Ça, c'est que l'épisode 1 c'est a vrai. Pas de... tu sais, c'est ça, ça manque un... Il manque de méchant, il manque de quelque chose, tu sais, il manque... Puis quand il nous... Écoute, finalement, il nous montre le méchant, il tue.
Il meurt tout de suite après. Écoute, ça, là, je pense que c'est la plus grosse, grosse, grosse connerie de Star Wars épisode 1. Faire un ultra gros marketing sur un méchant qui est vraiment, vraiment cool. On le voit, puis on se dit que ce gars-là, il a un background, puis il est, t'sais, dans le combat, il est super hot, mais un petit peu plus tôt dans le film, ils nous ont montré qu'il y avait une révérence envers Palpatine. Donc, on comprend la puissance de Palpatine
ouais.
par la puissance de son... T'sais, fait, tout ça, ça fonctionne à 100 000 à l'heure. Le combat à la fin, Duel of the Fate, c'est hallucinant. Je trouve tellement que c'est un bijou, cette affaire-là. Patate.
Ah ouais, c'est débile. C'est complètement insensé que le Big Bad... Pouf! Ben, c'est le Big Bad. C'est pas le Big Bad, là, c'est le deuxième, mais il peut pas partir si vite que ça. C'est comme si Luke, il... C'est comme si Obi-Wan avait buté Darth Vader dans l'épisode 4.
Ouais, ouais, ouais. Ouais c'est ça, c'est que... exactement ça.
Hein?
Puis là, justement, ça nous empêche d'avoir un build-up.
Ben oui.
Puis là, après ça, ils sont obligés de mettre Dooku dans l'affaire, puis de faire... De faire en sorte qu'Anakin doit... éliminer Dooku pour prendre sa place comme initié de l'empereur. Mais là, ça fait en sorte... Il y a un personnage de trop, puis c'est Dooku. Mais s'il l'avait remplacé par Darth Maul, et voilà. Puis là, tu peux faire un build-up, tu peux l'haïr, tu peux... Si Darth Maul avait réussi à éliminer... Donc, enfin, il a réussi à éliminer Qui-Gon, puis il se pousse, ça fait en sorte que 10 minutes, tu sais, dans le film d'après, Obi-Wan subitement pourrait avoir une espèce de combat intérieur, de rage qu'il doit rationner envers Darth Maul qui a tué son maître. Là, il y a quelque chose de le fun, mais chose. Non.
Ah oh, ouais, c'est clair, t'as eu une espèce de conflit. Ouais, t'as eu un conflit avec avec Obi-Wan, puis là t'aurais eu un Palpatine encore plus puissant.
Comme, ben oui.
Comme ils ont fait avec lui, ce que je comprends pas, c'est que George Lucas était là dans l'épisode 4-5-6. Palpatine, là, il te le dose. Puis là, c'est à travers la puissance de Vader que tu sais que Palpatine il est vraiment puissant. Mais là, c'est ça, il te l'enlève tout de suite. Puis du coup, il faut comme qu'il te le rentre en plein milieu de la trilogie. Puis qu'il essaie de te l'expliquer. Puis t'es comme, dude, t'as fait déjà. Puis en même temps, il essaie de te l'expliquer. Là. Puis ça, c'est une maladie aussi de l'épisode 1. Là. Puis c'est dans tous les épisodes des prequels. Ils veulent tout t'expliquer.
Ouais, ouais, ouais.
Plutôt que de faire ce qu'ils ont fait dans 4-5-6, qui est rien t'expliquer. Ça marche pas. Ça marche pas, là.
Non. Le non-dit, des fois, c'est tellement merveilleux.
Ben oui. Parlons des acteurs.
Oui.
Liam Neeson. Qui-Gon Jinn.
Vas-y.
Écoute, je sais pas. Je sais pas.
C'est pour ça que je veux que tu commences.
C'est un peu...
Je sais pas non plus. Moi, je vais mettre sa carte sur table. Ouais. J'adore ce gars-là.
Ouais, moi aussi, c'est Liam Neeson.
C'est un super bon acteur. Je trouve que le concept du personnage est bon. Mais je le trouve tellement beige.
Mais en même temps, c'est un Jedi.
C'est sûr que là, tu soulèves un point vraiment intéressant.
C'est tu vois...
Que nous autres, on s'en parle, là, on peut peut-être mettre les gens au courant que nous autres, notre lecture de la chose, c'est pas que ça devrait pas être le bien contre le mal. Les Jedi ne sont pas bons.
C'est ça.
Je pense qu'on en avait déjà parlé, en plus qu'on avait fait l'épisode 7 ou 8, je sais pas trop quoi. Mais ça, ils sont pas bons, les Jedi. Ils sont supposés d'être neutres, d'être froids, d'être calculateurs, qui est l'opposé de la rage et de l'intensité des Sith. Et donc, oui, effectivement, quand je dis que Qui-Gon Jinn est beige, mais en fait, il répond parfaitement à ce que je recherche, en fait, dans un Jedi. T'as raison.
Puis, l'affaire, c'est que si tu remarques le personnage que Liam Neeson fait, il est pas attachant. Il n'est pas attaché. Il est désagréable avec Jar Jar. Vraiment désagréable avec lui.
Mais tout le monde le serait.
Il est désagréable avec tout le monde, en fait. Il n'y a pas de... Tu sais, à part Anakin, mais pas parce que, genre, il trouve fin pis il l'aime bien, mais c'est parce qu'il fait comme... Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose, tu sais. Pis qu'il fait comme... Oh, man, c'est lui, là, genre, c'est l'élu. C'est pour ça, là, qu'il s'attache, là, à Anakin. Mais, dans un sens, Liam Neeson nous offre un Jedi comme un Jedi devrait être. Pis les dialogues, là, quand il parle avec Obi-Wan...
Ah, il est bête, hein.
C'est tellement froid et...
Il le replace tout de suite. La première affaire qu'ils se disent ensemble, c'est Qui-Gon qui replace Obi-Wan. C'est très beau. Écoute, je vais me permettre de sauter un petit peu du coq à l'âne parce que tu viens de me faire penser à un truc par rapport au...
Oups.
Scénario.
Oups. On a un petit lag.
C'est qu'il y a une espèce... Ah oui, effectivement. Ah, ça va. Donc, une chose que je trouve absolument merveilleuse des épisodes 1, 2, 3, c'est l'aspect « Lost in Translation ». C'est l'aspect, ils ont mal interprété une légende.
Ouais.
Anakin va amener la balance. Ça veut pas dire qu'il va éliminer les Sith, ça veut dire qu'il va les faire gagner.
Ben ouais, ça veut dire
qu'il va pas gagner, mais il va les rebalancer, tu sais.
S'il y a deux Sith, il y a deux Jedi.
Puis ça, ils nous en ont jamais parlé dans les films 1, 2, 3, ce qu'ils ont très bien fait, parce que, tu sais, c'est comme dans le sous-texte. Après, tu comprends, tu sais, que c'est
ouais,
ça,
mais
Anakin, c'est pas...
C'est-tu vraiment ça? Est-ce que tu penses que c'est ça qu'il voulait? Ou c'est ça...
Je sais pas si c'est ça qu'il voulait.
Pas sûr,
mais...
ouais.
Non, peut-être pas. Mais c'est ça, pareil, tu sais.
Parce que même, si tu vois après ce qu'ils ont fait avec les... Si on sort dans les séries, là, dans Clone Wars, puis tout ça, là, tu vois que c'est pas ça, tu sais. Tu vois que... non, c'est autre chose. Puis même si tu continues avec Rebels, là, tu te rends compte... Hey, il y a des Jedi partout, tu sais. C'est le principe vraiment que Star Wars avait voulu, que c'était... Ah non, mais il vient amener la balance des deux et deux, là, tu sais.
Mm-hmm. Mais ça, je pense qu'à un moment donné... quand ils ont écrit les épisodes 1, 2, 3... Ça, je trouvais ça absolument merveilleux, là, que l'espèce de la balance, puis qu'ils n'ont pas compris que c'est pas tout l'un, ça veut dire vraiment ramener la balance. En tout cas, ça, je trouve ça merveilleux. Mais après ça, il y a tout l'aspect Disney, l'aspect marketing, de les gens veulent voir des Jedi, t'sais. Ils veulent pas voir des rogues, ils veulent voir des gens avec des sabres laser, tu sais. Fait que là, ils sont comme obligés de donner aux gens
les
recherches.
Les séries, ça n'a pas été fait par Disney.
Excuse-moi?
Les séries n'ont pas été faites par Disney, on s'entend.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été racheté par Disney après, puis là, tu sais, bon, dans toute cette espèce de dynamique-là d'essayer de rentabiliser la franchise en entier, tu sais, ils ont essayé de nous vendre des Jedi, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, ça chire cette espèce de saveur-là de Lost in Translation, je trouve.
Ouais, c'est ça, ouais, il aurait fallu qu'il reste avec leur affaire de non, il reste juste deux Jedi. Puis ça aurait été magnifique, là.
Oui, puis, absolument.
Ce qui est hot, c'est que ça continue. Parce que si tu vois l'épisode 6, Obi-Wan est mort. Yoda
est
mort.
Ouais.
Il reste Luke puis Léa. Il reste encore deux Jedi. Puis si tu extrapoles, là, puis tu t'en vas à l'épisode 8, là, où après avoir fait des Jedi, puis ça a chié, puis ça a pas marché, là, il a fait, Luke a fait, moi je m'en vais, il m'a caché à quelque part dans le fin fond du port, puis le Jedi c'est fini, là. Puis là tout le monde a fait comme, oh mais Luke Skywalker aurait jamais fait ça. Ben, ok, regardons, il en reste combien? Il en reste deux de chaque bord. Tu sais, c'est... Moi je trouve, en tout cas, si tu analyses toute cette affaire-là, l'épisode 8, ce débat-là sur Luke aurait pas fait ça, moi je suis pas d'accord en tout cas, là. Devient comme, ah ouais, hein, c'est vrai, tu sais, c'est la continuité seulement des choses, là.
Tu veux dire dans le sens où Luke a fait le bon choix,
a fait le choix qui était logique, tu sais,
en fait, qui était
Jedi, maintien...
c'était pas le bon choix, c'était le choix nécessaire.
C'était le choix le plus, c'était pas le choix qu'on veut, c'est pas le choix qui vient du cœur, c'est le choix qui vient de C'est la nécessité de la chose.
Oui, absolument. Poursuivons avec, parce qu'on parlait de Qui-Gon Jinn, parlons de Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi.
Je pense que des trois, c'est celui que j'aime moins, Ewan McGregor, dedans.
Mais là, on parle juste de l'épisode 1. Là. Mettons qu'on ramène ça à l'épisode 1 uniquement, parce que depuis tantôt, on parle de toute la franchise. Ouais. Mais...
C'est un peu ordinaire comme performance.
Ah oui?
Moi, c'est pas... Non. Je le trouve un peu... On dirait que c'est pas sur quel pied danser. Toute la langue qui fait le passage.
Ben moi, c'est drôle, hein? Je vois ça comme étant la folie de la jeunesse. Un jeune Obi-Wan Kenobi qui est pas maître de ses émotions encore. Puis tu sais, quand il voit Darth Maul finir par passer Qui-Gon au fil de la lumière... Il saute sur place, puis il est comme craqué. Là, il y a presque de la rage.
Ouais.
Fait il y a comme pas cette retenue-là encore. Fait que moi, Ewan McGregor, je trouve qu'il fait une super bonne job dans ce film-là. Premièrement, parce qu'il lead le film avec... en tout cas, le reste, c'est quand même assez mince, là, on s'entend. Ouais. Moi, je trouve que c'est un bon lead, puis que l'acteur avait des reins assez forts pour, après ça, mener les films 2 et 3. Bon, après ça, ce qui est autour est un peu faible, mais j'ai beaucoup aimé Ewan McGregor.
Je trouve que son personnage est pas assez... Il est pas clair, il est pas assez... T'sais. Il y a pas la présence... Liam Neeson a une présence. C'est vrai qu'en même temps, c'est le maître, puis l'autre, c'est l'apprenti, je comprends. Mais je le trouve moins... Ouais, moi, assumé, je sais pas. Il y a quelque chose qui me gosse. Je trouve moins imposant que... C'est ça. C'est quand t'arrives dans les autres, là, mettons, tu t'en rends compte que... Oh, tu sais. Reste que, globalement, Ewan McGregor, pour moi, est la meilleure chose des...
Des épisodes 1, 2, 3. Définitivement. Là, c'est pas Hayden Christensen, certain. Natalie Portman.
tu regardes ça, là. Puis je me disais, c'est étonnant que elle a eu une grande carrière quand même.
ben, en fait, ce que je trouve capoté, ben, on va se le dire, là, évidemment, là, c'est pas là, son meilleur rôle.
Ah non,
c'est pas son meilleur rôle.
Elle t'a chié, je veux dire, c'est
vraiment pas great. Keira Knightley non plus. Mais,
mais Keira Knightley, on la voit très, très, très peu. Là. C'est celle qui est déguisée en
Natalie Portman.
En Natalie Portman, ouais.
C'est bon, c'est ça. L'un et l'autre. Là.
C'est drôle que souvent les gens ont mélangé les deux. Tu sais, ils mélangeaient souvent les deux dans la vie. Là, que je trouvais ça drôle quand même que Keira Knightley fait le.
le deux. Mais en tout cas, pour en revenir à Natalie Portman, tout ça pour dire qu'elle a eu des grands rôles avant. Et des immenses rôles après, entre autres dans Black Swan. Là, elle n'a pas gagné un octave. un Oscar pour Black Swan, je pense. En tout cas, tu sais, une actrice capable de merveilles. Mais, parce que oui, aussi plus tard dans le mois de septembre, on va passer à travers Léon le professionnel.
En fait, c'est pas la semaine prochaine.
Ah, ça se peut, je sais pas. J'ai pas...
Elle a gagné l'acteur, la meilleure acteur, actrice, en fait, aux Oscars en 2010 pour Black Swan. Elle était en nomination en 2004 pour Best Supporting Actress pour Closer, puis ma nomination pour Jackie. Comme, t'sais, c'est quand même quelqu'un qui est en nomination trois fois aux Oscars. Puis elle a joué quand même dans Star Wars épisode 9, ça a pas trop scrappé sa vie.
Elle a commencé super jeune, est encore dedans. D'ailleurs, c'est une personne. En tout cas, moi je la trouve absolument magnifique.
Oh,
puis elle a l'âge de ma femme en plus. Fait que c'est capoté. Ils ont genre 6 jours de différence, elle puis Nancy. La date de naissance de Natalie Portman, le 9 juin 1981.
Mais c'est. En fait, non seulement c'est une actrice incroyable, c'est quelqu'un que je respecte. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui,
c'est une artiste incroyable, intègre, super. C'est ça. Puis, tu sais, quand tu la regardes dans Star Wars épisode 1, tu fais « Wow! » Okay, c'est une chance que ça n'a pas affecté sa carrière, tu sais. Parce que le monde aurait... aurait pas vu... eu la chance de voir ce que cette femme-là peut apporter au cinéma, là, tu sais.
Mais ouais, absolument.
C'est ça, elle a de l'air inconfortable, énormément, là. Je sais pas si t'as remarqué, elle a pas de l'air à savoir quoi faire, elle a pas de... Mais ça, encore une fois, je veux juste vérifier, c'est qui a réalisé. C'est George Lucas qui a réalisé le film, puis... Parce que, bon, pour ceux qui savent pas, il a pas réalisé tous les vieux, là. Il a réalisé l'épisode 4 seulement, je pense. Et c'est un réalisateur absolument exécrable. Pourri. Il sait pas diriger les acteurs. Il sait pas quoi dire. Si c'est pas bon, il va juste dire recommence. Fait que les acteurs savent pas quoi faire. Et t'as l'impression qu'il y a Natalie Portman qui était jeune quand même à l'époque, là.
Ben, elle avait l'âge de Nancy, elle avait 18 ans.
C'est ça, tu as l'impression que c'est pas...
Non, en fait, même, elle avait 17, parce qu'évidemment, c'est tourné l'année avant que c'est mis en salle. En tout cas, bref.
Fait que c'est ça, elle est perdue tout le long. C'est dommage, là. T'sais.
Ouais, vraiment.
Elle a des petits moments, là, des petits moments, quand même.
Jake Lloyd.
Il est mille fois mieux qu'Aiden Christensen.
Oui.
Genre, il est vraiment... En fait, je regardais ça, là, puis j'étais... Hey, il est pas si pire. Il est pas mauvais, là.
Ben, c'est juste que je trouve tellement qu'il est mal dirigé.
Ben, ouais, il est pas dirigé, ça.
Hey, ben, c'est ça, on vient juste d'en parler. Mais, tu sais, je trouve que le petit gars, il avait beaucoup de potentiel.
Ouais.
Il a l'espèce de petite attitude de baveux que tu veux d'Anakin Skywalker à cet âge-là. Mais le débit du texte est tellement faux. Oh!
Non, non, ça. Oh,
oh. Et ça reste quand même meilleur que Hayden Christensen.
Ouais. Fait. Mais ça, on s'entend, tu sais, des enfants au cinéma.
Non, c'est jamais great, là.
C'est jamais great, mais lui, quand même, je trouve pas pire. Tu sais, je trouve qu'il y avait quelque chose. C'est dommage qu'il a jamais. Il a pas continué sa carrière. Là.
Non, effectivement. Tu sais, lui, ça l'a scrappé, ben, je pense.
Ben, ouais, il se faisait écœurer à l'école, fait que. Il a décidé d'arrêter en 2001, là, 2 ans après, là. Et fait que tu sais, c'est ouais, mais il est bon. Ian McDiarmid qui fait sénateur Palpatine / Darth Sidious.
Écoute, je l'aime tellement.
Je l'aime plus quand on voit pas sa face.
Ah ouais,
c'est plus sa voix que j'aime que le reste.
Ah oui, mais ça, vois-tu, c'est... Parce que je pense qu'il faut se replacer à l'époque. Quand c'est sorti en salle, Star Wars épisode 1, c'était pas clair où est-ce que ça s'en allait, cette histoire-là.
Non.
Est-ce que le sénateur Palpatine, c'est l'empereur Palpatine? On le savait pas trop. On pensait que peut-être oui, mais que peut-être qu'il y aurait une twist dans un autre film. Tu sais... Fait que l'espèce de double personnalité, de double personnage, il le joue à merveille.
Ouais. Puis c'est dans le ton de voix, quand c'est Darth Sidious, dans le fond, il est beaucoup
plus... Il est comme plus pincé, il est Mr. Burns.
Puis quand il est Palpatine, il est doux. Puis fin, tu sais, puis il est tellement aimable, ouais. Il est tellement... Tu sais, genre, tu le regardes aller, puis je fais... Hey, il est gossant. Il est fatigué. Ouais. C'est le genre de personne, tu fais, aïe, pff, lâche-moi, là. Mais c'est cool ce qu'il fait. C'est vraiment hot, là. Moi, ça reste de toutes les Star Wars, un des personnages et un des acteurs le plus intéressant.
Mm-hmm. Puis justement, qui fait en sorte, tu sais, lui, c'est le genre de personnage qui est complexe, qui est deep, que... C'est un manipulateur, on apprend à l'haïr, on voit ce qu'il fait à toute la famille Skywalker, à la galaxie en entier. Il y a des séquelles après, pendant des années. T'sais, c'est comme un gros mouton de l'univers de Star Wars. On veut savoir d'où il vient.
Ah, c'est pour ça que j'aurais aimé ça voir un... Tu sais, au lieu de... Tu sais, parenthèse, au lieu de nous dire qu'on va faire un film sur Obi-Wan... Là...
Mm-hmm.
Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont à raconter sur Obi-Wan. Racontez-nous un film. Faites-nous un film sur comment Palpatine est devenu
un Sith. Ah ouais. Puis un film genre 16 ans et plus, 18 ans et plus. Tu sais, une affaire là, pas beau là.
Tu sais, parce que le gars, c'est pas un Jedi là.
Non.
Comment il a été... il a rencontré Darth Plagueis.
Il n'est pas passé par l'ordre de Jedi avant de devenir Sith. Fait que, il y a quoi, là? On veut le savoir.
C'est vraiment intéressant. C'est pas l'histoire classique d'un Jedi qui est devenu désisonné puis qui a décidé d'aller du côté obscur. Non. Comment il est arrivé là? Puis comment il a réussi à faire son chemin et se faufiler jusqu'à devenir... Tu sais, là, tu le vois devenir chancelier, mais comment il est arrivé jusqu'à devenir... Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à sénateur, tu sais? Parce que tu sais qu'il a tout manipulé puis il a tout gossé en arrière pour se rendre là.
Ah oui? Et puis c'est quoi son but? Pourquoi il veut faire ça?
Puis le voir, tu sais, c'est ça. Il même manipule puis se rend à tuer son maître. Puis tu te dis, « Hey, Darth Maul, ça doit pas être le premier. » Il a dû en avoir d'autres, mais qu'est-ce qu'il a fait? Fait que, c'est ça, je veux voir ça. Lâchez-nous, Obi-Wan. Tu sais, surtout si vous avez vu la série Rebels, ils mettent. Tu sais, ils finissent. Tu sais, le seul vide que t'as pour Obi-Wan, c'est quand il est sur Tatooine. Il comble ce vide-là dans la série Rebels. Fait que. Tu sais ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il faire. Mais Ian McDermott, incroyable. Je voulais parler d'un Ahmed Best. Pauvre gars. Sérieusement, là. Ce gars-là, là, Star Wars épisode 1. En fait, les trois épisodes. Mais surtout le 1, parce que Jar Jar est moins là dans les autres. Ça a scrappé sa vie. Complètement. Là. Soyons gentils.
Mais avant de parler de l'acteur, parce que moi, je trouve que l'acteur est très bon.
Oui. Oh.
L'acteur est super bon. Les démarches, ça a l'air alien. Il a l'air grand flambeau. Tu sais, ça fonctionne à fond, ce qu'il fait. Mais le concept n'a pas sa place. Ouais. Comme les Ewoks n'ont pas vraiment leur place non plus. Mais les Ewoks, ils étaient quand même violents. Jar Jar, il est juste tâche. D'ailleurs, évidemment, on en a déjà parlé, je pense, là, mais moi, je rêve du jour où est-ce qu'on va avoir un film de Star Wars, un épisode 7, 8, 9, puis il se promène sur une planète désertique, puis quelque part dans le désert, il y a un squelette de Jar Jar quelque part. Moi, là, écoute, ce jour-là, je serais prêt à mourir.
Non, mais tu vois, puis ça serait une rédemption pour Ahmed Best.
Malade. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que ce qu'il fait, c'est bon.
Ouais.
Mais je pense pas que dans l'écriture du scénario... Tu sais, manifestement, là, ils ont essayé d'aller chercher un public qui n'a pas rapport. Là. Ils ont fait un marketing de l'épisode 1 pour des enfants de 5 ans. Parce qu'ils voulaient que les jeunes s'identifient à Anakin. C'est ça qu'ils voulaient. Fait qu'ils ont mis un Jar Jar, un clown qui va faire rire, le comic relief de la place, tu sais. Mais pour de vrai... Les gens qui allaient voir ce film-là, c'est des gens comme toi puis moi là, qui avaient 18, 19, 20 ans.
Yeah.
En fait, elle avait peut-être 16, mais...
Il y a beaucoup d'enfants qui ont été voir ces épisodes-là. C'est ça qui arrive. Et c'est... le chiffre dans Star Wars, en fait, il se passe pas avec Jar Jar. Là. Jar Jar, c'est comme ça, c'est ça. C'est un petit tu parlais des Ewoks. Là. Jar Jar, c'est la suite des Ewoks. Là. C'est l'extension des Ewoks, des marionnettes dans le palais de Jabba, là, je veux dire. Le marketing de Star Wars est devenu... Là où Star Wars a fait de l'argent, c'est dans les jouets.
Mm.
Et ils se sont lancés à fond là-dedans. Puis là, il faut que tu penses qu'en 77, t'avais des gens qui avaient, mettons, 10 ans. T'sais. Là, 22 ans plus tard, ils ont 32.
Mm-hmm.
Il y en a qui ont des enfants de 7, 8 ans déjà. Même, tu sais, 6, 7. Et ils sont amenés voir ça. Et eux ont trippé sur Jar Jar. Mm. Et eux ont trippé sur Star Wars, épisode 1, 2, 3. Je veux dire, si je parle des fois à certains de mes élèves, là, ils ont adoré Star Wars 1, 2, 3. Ils trouvent les autres plates. Et c'est comme aujourd'hui, je veux dire, tu vas voir l'épisode 8. Mon fils a vu l'épisode 8. Tout le monde a des problèmes avec l'épisode 8. Quand il est sorti du cinéma, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le meilleur film de Star Wars que j'ai vu de ma vie. Fait que, tu sais, autant que le personnage est gossant, autant qu'il n'est pas pour nous. C'est simplement pour ça. Et c'est là la réalité de... Tu sais, avec Ahmed Best, ce que je veux en amener, c'est... ben, Star Wars, là, c'est plus pour nous autres.
Mm-hmm.
Tu sais, les gens de notre âge, en 77, qu'est-ce qu'ils disaient de Star Wars? Que c'était pas bon. C'était pourri, c'était des histoires d'enfants, c'était niaiseux, c'était... Et à qui ça plaisait, pour vrai?
Aux enfants. Hein.
Aux enfants. Fait avec tout ça, oui, Jar Jar est gossant, oui, mais il est fait pour les enfants.
Tu marques un très bon point. Avant de passer à autre chose, là, j'aimerais qu'on parle deux mentions spéciales, si tu me permets.
Vas-y.
Ray Park,
ouais,
qui fait Darth Maul.
Darth Maul.
Quand même une solide performance. Ouais. Le gars, il y a une ligne, mais...
Ah, c'est cool. C'est cool.
C'est cool. Dans... C'est très, très cool. Et puis, évidemment, tout le skill de...
De ninja.
Physique, là. Comment?
De ninja.
De ninja, c'est... Man, avec... c'est ça, là.
C'était la première fois. Ça. Parce que oui, les duels de sabre laser dans les autres, mais c'est pas comme ça, là. Là, c'était comme... On rentrait dans une autre classe. Et ça, c'est le meilleur... Probablement le meilleur duel de sabre laser... Le meilleur combat de sabre laser de toutes les Star Wars.
Ah ouais.
Ah, c'est
ben, moi, en tout cas, le duel de l'épisode 6...
Ouais, mais c'est pour d'autres différences. D'autres raisons, excuse. T'sais,
il est lourd, l'épisode 6.
Ouais, il y a quelque chose dans le dialogue, dans ce qu'ils disent. Mais moi, je parle juste dans le combat, là. C'est parfait. T'sais, c'est juste assez. Là, ouais. Quand t'arrives avec Yoda là, qui saute partout et qui se bat contre Dooku, là c'est... Mais là, ça, c'est hot. Ça, c'est un beau duel. Là. Et l'autre mention?
Et sinon, j'aimerais aussi une autre mention spéciale à Warwick Davis, évidemment.
Ouais, il fait des caméos, il fait des personnages, il fait tout. Mais...
Faudrait vraiment faire Willow à un moment donné.
Oui, ouais, absolument. Tu sais, du côté... Je veux pas qu'on s'attarde vraiment beaucoup à ce qui est effets spéciaux puis décors, tout ça, parce qu'on le sait, c'est Star Wars. C'est beau. C'est bon. C'est mais... incroyablement riche, visuellement.
Mais ça t'a-tu fait cet effet-là, moi, de... Ça a mal vieilli?
Non, pas moi. Moi, j'ai trouvé que c'est mieux que certains films aujourd'hui. Mais j'ai pas...
Ah ouais?
Je l'ai regardé en Blu-ray. Je sais pas si ça change de quoi, là.
Ben, moi, je l'ai écouté en streaming. Là. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de scènes... Ou est-ce que c'était tellement pas bon, là?
Ah ouais?
Mais moi, la grosse scène que je trouve vraiment horrible, c'est au tout début du film, quand Qui-Gon et Obi-Wan se sauvent dans le vaisseau de la Trade Federation. Puis là, ils sautent d'une grille de ventilation.
Ah ouais?
Ah, ça, c'est...
Non,
horrible.
Ça, c'est
comment
horrible.
Ça, ils ont laissé passer ça au monde? Tu sais, qu'est-ce que c'est ça?
Ils partent à courir, c'est clair. Vitesse ouais, de Jedi, ouais, là, ça aussi, ouais, c'est ça. Vraiment laid, là.
Puis, mais là, où est-ce que j'ai trouvé ça vraiment épouvantable, c'est justement quand le vaisseau, il arrive sur Naboo. Puis là, il y a des portes qui ouvrent. Pardon. Puis il y a des vaisseaux qui sortent d'espèce de mothership. Là. Il y a des vaisseaux qui sortent sur la planète. C'est horrible comme c'est laid.
Oh, j'ai pas,
c'est faux, c'est informatique. On voit que les profondeurs ne fonctionnent pas. J'ai trouvé ça vraiment dérouté.
Ah ouais, moi j'ai trouvé c'était exceptionnel.
Mais toute la facture visuelle, je la trouve hallucinante. Mais ça m'a vraiment saisi à quel point ça avait mal vieilli.
Faudrait que je regarde, peut-être que j'ai pas remarqué. Mais ça m'a pas. Il n'y a rien qui m'a frappé de même. D'habitude,
bon,
ça...
écoute, je t'invite à réécouter le film.
Mais peut-être qu'en Blu-ray, ça... Je sais pas. C'est plus bleu. Ça a mon définition. Je sais pas. Fait que, es-tu prêt pour me poser une question?
Ah, mais moi, il y a ton...
Ah, Jar Jar Tabarnak.
Ta catégorie autre.
Jar Jar Tabarnak. Mais, c'est ça.
Go, vas-y. Sébastien.
Oui.
Comment je peux dire ça? Star Wars, c'est pas le meilleur film de l'univers.
Non.
Jusque-là, tu me suis.
Ouais.
Mais il y a quand même des grandes qualités. On en parlait un peu plus tôt dans notre épisode. En fait, il y a des qualités qui ont été assez bonnes pour mériter des nominations aux Oscars.
Ah ouais?
Le film a été nominé 3 fois aux Oscars, dans 3 catégories.
L'épisode 1.
L'épisode 1.
Okay.
dans trois catégories. L'épisode 1 a été nominé aux Oscars. Quelles sont les catégories?
Ok. La meilleure musique?
Non.
Non? Ok. Oh, wow, je suis étonné que la bonne notre âme sonore d'épisode 1.
Pourtant, c'est vraiment solide.
Bon, ah, ça, je suis surpris. Ben, les meilleurs effets spéciaux?
Oui.
Meilleur best costume design, j'imagine?
Non.
Non? Ah.
Qu'est-ce que...
Sound design?
Sound design, oui.
Parce que ça fait partie des deux choses que George Lucas dit que pour faire un bon film, t'as besoin de belles images et de bon son.
Donc, maintenant que tu l'as sorti...
Photographie.
Ben, je vais te... non.
Pas pour la photographie, là.
Ben, c'est parce qu'il y a, y a une catégorie que tu as dit qui se divise en deux. Donc, je vais te le donner. Donc, la première nomination, à noter qu'ils n'ont pas gagné, hein, c'est des nominations. Ouais. Best Sound.
Ouais.
Best Sound Editing.
Oh, OK.
Sound Effects Editing, en fait. Et puis, Visual Effects.
Ouais. C'est bizarre, ça. Best Sound, puis Best Sound Editing. Tu sais, ils ont changé comment ça va fonctionner. Hein? Puis, tu sais, tu vois, je sais pas. Je sais pas si c'est deux catégories qui sont absolument nécessaires.
Non, mais c'est pour ça que je te le donne à un moment donné, parce que là, on va être là jusqu'à demain matin. Mais donc, oui, effectivement, donc, Sound Editing, puis c'est quoi j'ai dit? Visual Effects.
Visual Effects.
Donc, tu as 7 sur 10, mon Sébastien.
Wouhou! C'est assez pour que je passe. Ça, c'est ce que je vise dans la vie, moi. T'sais, faut juste que je passe.
Magnifique.
C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné à l'école. Bon, on va aller dans les extraits. Ah, Beniel. Bon, j'ai quelques extraits. J'en ai qui sont des choses que j'ai entendues. Comme d'habitude, hein, pour ceux, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Là. Mais tu sais, les extraits, soit des affaires que je trouve drôles ou des affaires que je veux discuter de. Quand j'ai écouté le film, je fais comme, faut qu'on en parle. La première, c'est Newt Gunray. Tu sais, c'est qui, Newt Gunray?
Oui.
Moi, je trouve qu'il met des accents, là. Tu sais, des accents toniques quand il parle à des trolls de place, là.
We would never do anything without the approval of the Senate.
Ça me gosse.
Moi, je trouve que ça fonctionne.
Ouais, mais il parle pas tout le même.
Ah non?
Non. Il parle parce que
moi, je trouve que là-dedans, ça fonctionne parce que c'est un alien, tu sais, fait que l'anglais, c'est peut-être pas sa langue maternelle, tu sais, fait que je trouve ça le fun qu'il y ait des accents différents parce que tout le temps, l'accent british ou l'accent américain, tu sais, essentiellement. Ouais. Fait que là, on a un autre accent qui est pas un accent français, qui est pas un accent espagnol, qui est pas un accent arabe, qui est pas un accent... Je trouve ça le fun.
Ouais, je sais, mais c'est juste le « we would never do anything ». Ça me gosse, c'est tout. Mais ça m'a toujours... Du moment que je l'ai vu la première fois, j'étais comme « c'est bien weird ça ». Fait que c'est pour ça, c'est sûr que j'allais... Quand je pensais déjà aux extraits des affaires de film, je savais que j'allais le mettre là. Ça, c'est une sagesse de Qui-Gon qui s'applique à beaucoup, beaucoup de monde.
You almost got us killed. Are you brainless?
I speak.
The ability to speak does not make you intelligent.
T'sais, surtout sur Facebook.
Non, mais c'est tellement un coup de batte d'en face, puis hein? C'est tellement ça. Mais puis en plus, c'est le fun que tu soulignes ça avec Facebook. T'sais, c'est pas les personnes qui parlent les plus fort qui ont les commentaires les plus intelligents.
T'sais. Sur Twitter, toutes les réseaux sociaux, c'est ça. C'est pas parce que t'es capable d'écrire de quoi que t'es intelligent. Le prochain, c'est Happy Anakin. Je trouve que les réactions d'Anakin qui est content, c'est quelque chose. J'aurais pu faire une compilation, mais j'en ai juste choisi une qui, pour moi, résume toutes ces réactions d'Anakin heureux.
Yippee!
Mais ça, justement, ça sonne faux. Même ça... OK, là, tu vas faire un petit cri de joie, puis tu vas t'en aller.
Yippee!
Non, mais quand ta fille, tu lui dis « OK, on va pas se coucher », là, elle n'a pas une réaction de même.
Elle ne dit pas « yippee », non.
Elle dit pas yippie, là.
Elle peut dire yé des fois, mais pas yippie. Non. Ça a été drôle que tu dises, y'a pas caillé.
Non, mais tu sais, clairement, là, dans le script, il est écrit yippie.
Ah, ouais, lui, il est calme.
Puis le petit gars, il a vu ça, puis il a fait « Hey, yippie! » Fait que là, George Lucas, il a fait « Ah, ben, c'est yippie! » Il a fait, tu sais, il dit ce qui est dans le texte, tu sais, mais c'est pas ça.
Mais il fait tout le temps des petits « Whoop! » Puis des petits « Whoop! » Quand il est content, c'est ça.
Ça, la m'adopée.
Maintenant, ce qu'on va écouter, là, c'est un peu long, mais je l'ai mis, parce que c'est une conversation qui pour moi, là, représente un moment très, très sombre dans l'histoire de Star Wars. On n'a pas encore parlé, puis on va en discuter un petit peu, OK?
I need a midichlorian count.
The reading is off the chart. Over 20,000.
Even Master Yoda doesn't have a midichlorian count that high.
No Jedi has.
Oh, Sébastien.
Les midichloriens. Oh.
On n'a pas parlé. Premièrement, écoute, faut qu'on parle de cette scène-là. Avant de commencer à parler des midichloriens, moi, quand je vois cette scène-là, je me dis, comment ça, Qui-Gon, il y a une machine qui lit le compte des midichloriens, mais qui n'est pas capable de donner le résultat? Faut que le résultat s'en aille à l'autre bout de la galaxie puis revienne.
Non, mais en fait, ça va jusqu'à à côté, là, tu sais. Ça va... Dans le vaisseau, mais non, je sais pas, man. Je sais pas. Puis moi, ce que je comprends pas, c'est, tu sais, c'est comme si tu prenais le sang de quelqu'un. Tu sais, tu vas faire un test sanguin. Là. Puis ton médecin, il te prend une échantillon, tu sais, il te prend une file de sang. Là, puis il passe dans une machine, mais ça donne. Tu sais, ça analysait d'ailleurs. Je comprends pas. Tu comprends ce que je veux dire? Visiblement, ouais. La machine que Qui-Gon a peut pas analyser ça. Mais comment ça se fait que l'autre, à l'autre bout, est capable d'analyser?
C'est ça.
Je comprends pas.
En tout cas, bon. Ce détail
ça,
technique,
ça, c'est complètement stupide.
Ouais, les midichloriens.
Comment expliquer quelque chose qui devrait être inexplicable?
Ah, tellement.
Pourquoi expliquer la force?
Il parle constamment dans les films d'une religion.
Ouais.
D'une philosophie, d'un aspect mythique plus grand que nature, plus grand que nous, une force qui nous lie. Puis là, tu viens scraper ça avec un commentaire de même. Que c'est ça? Et d'ailleurs, ça revient pas après. Là.
Ouais, la meilleure description de la force, Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4. Elle est partout, elle est autour de nous. C'est genre une force, une énergie qui nous connecte ensemble. Puis que ça, c'est incroyable. Pas c'est des bébites que t'as dans ton sang, tu sais. Puis dans le sang de tout ce qui vit.
Puis là, en plus, ça. C'est comme une espèce de rappel forcé de Jésus-Christ, tu sais.
Ah ouais. Avec, ouais.
Non.
Oh. Anakin a été créé par la force. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Ça n'a pas de sens. Là. C'est con. Là.
Les midichloriens. Quelle gaffe.
Alors, c'est horrible. C'est horrible.
Un moment sombre de l'histoire de Star Wars.
Maintenant, on va écouter Monsieur Attitude.
This is so wizard, Annie. I'm sure you'll do it this time.
Do what?
Finish the race, of course.
J'aime ça. Of course! T'es ben con! Mais c'est quand tu regardes le film, c'est la face du petit gars, là. Il regarde Padmé avec un
air de wash.
Ouais, t'es, vraiment, il est comme. Mais t'es ben con! Qu'est-ce que tu veux qu'il finisse d'autre? Mais en même temps, c'est vrai, la question est vraiment niaiseuse, là. Tu sais, il parle de la course. Là, tu vas finir. Finir quoi? Tu sais,
Je pense qu'elle suivait pas la conversation à ce moment-là.
Ouais.
Oh, bon, magnifique.
Un autre affaire, un autre moment. Je l'ai appelé Facepalm, mais c'est juste. Tu vois, c'est un autre endroit où Star Wars a été que j'ai fait. Non. C'est pas une bonne place, là, tu sais. Ouais. Ouais. Je vais te le faire écouter parce que je veux que t'écoutes, tu sais. Bon, en foreground, on a le gros perte là, de la bébête, là. Je veux que t'écoutes ce qui se passe en background, la musique. C'est complètement absurde. Écoute ça.
side.
La musique était 40. Ça, là, quand j'ai vu le film, là, la scène là, où il présente les pilotes de Podrace, puis avec la musique, là, le moment où il y a plus de ça, il y a juste la musique, puis c'est les drapeaux qui rentrent. Là.
Ah non, mais ça, la scène du drapeau, c'est beau! C'est beau!
La musique est tellement bonne, puis c'est hot, puis en plein milieu de la scène des drapeaux, qu'est-ce qui arrive? Ça!
Grave, grave erreur d'édition.
Ah, c'est terrible.
Puis, si tu vois, maintenant, les jokes de pète dans Star Wars, ça a comme pas sa place. Je trouve ça hilarant dans Deadpool. Mais dans Star Wars, surtout dans un moment qui est comme intense, puis il y a une espèce de build-up vers le est-ce qu'il va gagner ou non, tu sais. Même si pour de vrai, c'est sûr qu'il va gagner. Là, tu commences à. Tu fais un 100 mètres, tu pars à la course, mais finalement, tu chines dans tes culottes. Je sais pas, il y a comme.
C'est ça. Ah, non, en tout cas, c'est la merde. Ah, ouais, ben, tu sais, tantôt, on parlait de Natalie Portman. Là. Ben, regarde, ça, je me suis dit, hey, c'était vraiment la meilleure take.
Look, here he comes!
Je pense qu'elle était en train de lire son texte.
Look, here he comes! Hey, elle est contente, hein? Elle est tellement heureuse de le voir venir, hein?
Ah! Oh.
C'est ridicule. Mais je peux pas croire que c'était la meilleure. C'est ça que c'est ramassé dans le film. Attends une minute, combien ça a coûté faire ce film-là?
Ouf!
115 millions en 1998, là. Et t'es arrêté de me dire que c'est avec cet argent-là, c'est le mieux que t'as pu faire. T'as pas pu filmer la scène une autre fois, là, t'sais. Ou même la faire enregistrer la voix en studio, juste pour voir si ça peut être mieux. Écoute, ça faisait longtemps qu'on avait pas fait un Vision X. Fait que je me suis dit, hey, un rire, ça ferait du bien, là. C'est ça, c'est juste...
Non, mais ça en prend un, c'est excellent.
Une vieille tradition de Vision X.
Je suis satisfait, merci. Depuis des mois, j'attendais ce moment.
J'ai justement pensé à toi quand j'ai mis ça, là. Et le dernier, c'est Palpatine, Sidious, whatever. Écoutez, j'aime la fin, ça.
Wipe them out. All of them.
All of them, tu sais. Ah! Ah! Evil. Tu sais, c'est juste ça que tu sens, là.
La petite pause, le build-up, ça, c'est magnifique. Ça, c'est du grand art. J'adore ça.
Ce qui est le fun, c'est que cet extrait-là vient mettre vraiment un point sur ce qu'on a dit tantôt. Ian McDermott, là, c'est dans une petite phrase, ça explique tout ce qu'on disait tantôt. Maintenant, on va parler de musique.
Cue the music.
J'aime la musique.
Hey, ça c'est à propos, hein, aujourd'hui, le thème de musique. Oh, attention, il est terminé. Eh, hey, ouais! Axel, fan des pitons mute sur nos micros.
Merci.
Bon, ben, je pense que c'est pas un secret si je vous dis que c'est... Vous serez pas surpris si je vous dis que c'est John Williams qui a composé la musique de Star Wars épisode 1 et que c'est...
Profitez-en pendant que ça passe.
Ouais, parce qu'il reste juste l'épisode 10, puis, tu sais, John Williams est rendu vieux, là. Mais il a dit que, de toute façon, après l'épisode 10, il faisait plus de Star Wars. C'est bon.
C'est 10?
9, excusez. J'ai sauté à l'épisode 9. C'est bon. La musique est bonne. C'est super. C'est carré. C'est Duel of the Fates. C'est tellement cool. T'sais, comme je disais, c'est... le combat de Sablazard est bon. La chorégraphie est cool. Mais rajoute à ça, là, avec la chorale en arrière. Oh, man. C'est cool.
Écoute, ce que je trouve fantastique, c'est que l'épisode 1, excuse-moi, n'est pas passé à l'histoire. On n'a pas passé à l'histoire tant que ça, sinon pour la baisse de la qualité par rapport aux épisodes 4, 5, 6. Mais toi puis moi, là, on en fait de la musique, là.
Ouais.
On en fait des concerts.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait dans les concerts de Star Wars? Ah, dans beaucoup... les concerts de musique de films?
Il y a beaucoup d'épisodes 1 puis de prequels. Hein?
Il y a beaucoup d'épisodes. Il y a beaucoup de Duel of the Fate.
Ouais.
Je l'ai joué, si je l'ai pas joué 30 fois, je l'ai pas joué une fois. Fait que, non, c'est tout le temps joué. C'est absolument magnifique. Puis, si on tombe un peu plus dans le détail, l'utilisation des harmonies vraiment contemporaines, des rythmiques irrégulières, des orchestrations non conventionnelles, tu mets tout ça ensemble, puis ça donne quelque chose que tout le monde aime.
Ouais.
Même les gens qui sont pas nécessairement versés en musique dite savante, la musique classique, ça rejoint tout le monde parce que c'est tellement fort mélodiquement, puis ça colle tellement à l'image que c'est, ça nous vend tout de suite à l'idée.
Dans les prequels, là, il fait de la musique atonale que n'importe qui va faire comme « Oh wow, il va triper! » T'sais, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement abordable à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller chercher. Là. Mais John Williams le fait. Là. Il est capable de faire du quoi de parce qu'une fois de temps en temps, il va utiliser certains thèmes mélodiques juste pour. Parce qu'il sait qu'il fait quelque chose qui est très. Tu sais, qui est beaucoup plus loin pour les gens qui ont pas l'habitude. Qui ont pas le...
Il va nous rattacher.
Fait qu'il va attacher avec autre chose. Puis, d'utilisation. Écoutez, réécoutez l'intro de l'émission. La conversation entre Obi-Wan et Yoda. Quand Yoda, il parle de son inquiétude, qu'est-ce qu'il joue en arrière, là? On entend... Mais très lent. Tu sais, la marche impériale, super lent, tu sais. Mais très... Parce qu'il parle... John Williams fait... Tu sais, il projette, il montre l'avenir... Avec ça, c'est cool. C'est
on en avait parlé quand on avait fait notre épisode sur Jaws. Il rajoute une couche à la trame narrative. C'est capoté.
Si vous l'avez
quel
pas,
grand maître.
Achetez-la. Maintenant, David.
He scores!
Je vais donner la note de 6 sur 10 à l'épisode 1. Dont 3 points juste pour la musique. Non, mais tu sais, visuellement, c'est beau. Il y a des. C'est visuellement très beau. La musique est hallucinante. Le son est bon. Il y a des bons acteurs. C'est-à-dire, il y a des acteurs qu'on est heureux de revoir à l'écran. Le scénario est tellement, tellement pauvre.
Ouais. Ah ouais. On dirait une première écriture.
Ouais.
On dirait. Tu fais comme. Ils n'ont pas retravaillé, en tout cas. Moi, je donne 5 sur 10. Puis, en fait, pas mal pour les mêmes raisons que toi. Je veux dire, ce qu'on voit, il y a des idées, il y a des flashs, T'as l'impression qu'il y avait quelque chose de grandiose, de caché là-dedans, quelque part. Et qui, malheureusement, a été échappé. Puis, moi, l'épisode 1, puis à partir des autres après, ça m'a toujours fait penser que George Lucas... C'est un peu l'histoire de George Lucas. Il a réussi par accident. Les autres, là, puis les c'était des erreurs. C'était comme... Puis du moment qu'il s'est mis à vouloir essayer, là, mais ça a donné l'épisode 1, 2, 3, puis ça a donné Indiana Jones 4. C'est ça l'affaire, là. J'ai l'impression qu'avant qu'il essaye, là... Puis tu sais, même déjà dans l'épisode 6, on commence à voir des affaires qui sont un peu... Mais ouais, c'est malheureux, mais ça aurait pu être bon, ça aurait pu être meilleur. Ceci étant dit, regardez-le et faites-vous votre propre idée. Il y a des choses intéressantes, c'est pas acheté aux poubelles. Comme d'habitude, on vous invite à aller faire un tour sur patreon.com/sbalbino. Ça va nous permettre de continuer à faire vivre Vision X. Et en passant, on est reparti pour une Vision X par semaine. La semaine prochaine, on va faire... on va rester dans le sujet de Natalie Portman. On va aller vers Léon. Avec, Gary Oldman, qui est...
Un must.
Le meilleur acteur. Ça.
Ah non, c'est un de mes acteurs. Sinon, mon acteur préféré. Ah,
fait que vous avez juste à aller sur Balado Québec, trouver toutes nos émissions sur notre site internet moitiéregeek.com. Si vous voulez nous écrire, écrivez à visionxcast@gmail.com. Suivez-nous sur Facebook pour ne pas manquer nos épisodes. Et partout où vous trouvez notre émission, laissez-nous un 5 étoiles, ça va nous aider, ça va nous rendre heureux. Et on va vous aimer éternellement pour ça. Là-dessus, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Merci beaucoup, David.
Merci à toi, Sébastien.
Et on se reparle la semaine prochaine. Bye.